Yo tengo una ciruela tan dulce, tan jugosa. Yo tengo una ciruela tan dulce, tan jugosa.
Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Martin Nathan, aka Brand Damage, originaire de Saint-Etienne. Vous avez commencé votre carrière en 99, donc vous êtes un pionnier du dub en France, avec pas mal de collaborations d'artistes de la scène dub britannique, tels que Zion Train, Alpha et Omega, ainsi que The Disciple. Il y a 14 albums à votre actif, dont le dernier sont Liberation Time en 2017 avec Harrison Stafford, leader du groupe Woundation, et Yanomas en 2018, ainsi que le Combat Dub 4 qui vient de sortir. Pouvez-vous nous expliquer le concept du Combat Dub 4, justement, que vous avez sorti pour célébrer vos 20 ans de carrière?
Alors, le Combat Dub 4, c'est un cadeau que je me fais à moi-même et que je fais à tous les gens qui suivent l'aventure de Brain Damage depuis 20 ans, depuis 99. Comme ça vient d'être résumé, il y a déjà 14 albums, il y a des centaines, pas loin d'un millier de lives en France et en Europe, et même aux quatre coins de la planète. Et comment résumer ça aussi bien qu'en faisant une compilation comme ça qui permet de réunir un petit peu des extraits de chacun de ces 14 albums, mais retravaillés par tous les gens que j'ai pu côtoyer depuis 20 ans et qui constituent le noyau dur des activistes de la scène dub mondiale. Donc ils se sont tous prêtés au jeu. Il y a 14 morceaux qui correspondent grosso modo aux 14 albums qui sont revisités pour l'occasion, ce qui permet de refaire un tour de la discographie de Brain Damage, grosso modo de tous les projets qui ont été effectués depuis 20 ans, tout en leur remettant un coup de neuf. Il ne s'agit pas d'un best-of, mais bien de titres remixés. Donc, encore une fois, sous forme de cadeau pour tous les aficionados des travaux de Brain Damage.
D'accord. Du coup, comment s'est fait la sélection de ces dubmakers, justement, sur l'album?
Ça a été assez facile, assez naturel, dans le sens où c'est que des gens avec qui on a pu être amené à travailler ces 20 dernières années, avec qui on collabore régulièrement, qu'ils viennent de France, d'Angleterre, de Jamaïque, du Japon, de New York, du Mexique, un petit peu de partout. Et encore une fois, souvent des gens avec qui il y a déjà eu des projets au préalable. Donc finalement, ça a été plus un travail de sélection. Il a plus fallu enlever des idées qu'on a pu avoir plutôt que voir des idées. C'est un travail. C'est déjà le quatrième volume de ce genre de compilation. C'est la quatrième fois qu'on se livre à ce genre de sélection. Donc on sait faire. C'est vrai que c'est très plaisant parce que tous les gens sollicités jouent le jeu. On les connaît et à chaque fois on sait qu'il y a de la qualité artistique et de la sincérité.
Vous seul sur scène lors des tournées pour cet album ou vous êtes accompagné de dubmakers ou d'artistes?
Alors effectivement, je serai seul sur scène pour effectuer les lives de Brain Damage sur la tournée qui a déjà commencé. On a déjà fait une dizaine de dates là, grosso modo. Il va y en avoir quelque chose comme 50 ou 60. Après, être seul sur scène, c'est pas du tout quelque chose d'étrange pour moi, parce que c'est souvent le cas. J'allais dire une fois sur deux, une tournée sur deux, je suis tout seul, une tournée sur deux, je suis accompagné, gré des collaborations et des projets à défendre du moment. Là, c'est vrai que autour des 20 ans, curieusement, là où les gens ont tendance, quand ils célèbrent quelque chose, à avoir envie d'inviter des gens, moi finalement j'ai fait le choix de défendre ça tout seul. Quand je dis tout seul, je suis jamais vraiment seul à faire les choses, parce que notamment là, il y a une grosse création lumière et vidéo qui m'accompagne. Donc il y a tout un tas de techniciens qui sont sur la route avec moi et qui assurent le spectacle. Donc je suis seul sur scène, mais il s'y passe beaucoup de choses. Speaking on the union of all creation, we must have the basic understanding that in every farm in this dominion, man is the champion of the champion. We must be Rasta, forming every day, teach our children cool, child get dread, as the youth them a battle for the last bit of bread around here. Oh Lord, it Rasta, forming every day, to teach our children.
Donc je vais un peu revenir aussi sur votre avant-dernier album, du coup Yanomas. Donc aviez-vous une volonté de faire un album exclusivement centré sur la musique latine ou ça s'est construit au fil des rencontres?
Alors absolument pas, oui, c'est vraiment une histoire de rencontre. J'ai été sollicité par le directeur du festival Télérama Dub il y a 3 ans déjà, qui me proposait d'aller jouer à Bogota pour une édition un peu spéciale du festival là-bas et éventuellement commencer une création si rencontre et plus si affinité, comme on maladie. Et c'est ce qui s'est passé à peine descendu de l'avion. Les rencontres se sont faites immédiatement et ont été si fructueuses que 24 heures après avoir atterri, on était déjà dans des studios en train d'enregistrer avec des gens qui avaient envie de participer à un projet, quel qu'il soit, avec Brain Damage, même si les choses n'étaient pas encore trop claires. Et c'est vrai que je me suis permis de revenir deux fois à Bogota pour finaliser ce projet, solliciter d'autres musiciens, faire d'autres sessions studio, tout en sachant que le but ultime était d'illustrer un petit peu cette rencontre, notamment avec des activistes qui officient dans les quartiers les plus défavorisés de Bogota, donc qui ont un propos et une action sociale qui m'a tout de suite parlé. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu le thème directeur de l'album, plus que la musique latine elle-même. J'avais pas vraiment envie de faire un album de musique colombienne, mais d'un album inspiré, bien sûr, à les traditions ancestrales musicales là-bas, qui sont évidemment à ne pas négliger, mais j'ai voulu lui donner une couleur un peu urbaine, et notamment dans le choix de certains intervenants vocaux, comme les chanteurs qui officient, à qui j'ai demandé d'écrire des textes pour l'occasion, relatant l'action sociale, justement, qui était menée dans ces quartiers-là. Donc, il s'agit pas simplement d'un album de musique latine.
Est-ce que la connexion avec les artistes s'est faite assez facilement, ou il a fallu plusieurs rencontres, plusieurs travaux?
Il y a vraiment une rencontre qui a été essentielle, c'est celle des activistes de Gatos Negros, qui sont musiciens eux-mêmes, mais officient dans les quartiers les plus difficiles. Donc, c'est vrai que, d'une part, j'ai été séduit par leur gentillesse, leur accueil, leur disponibilité, leur talent, mais aussi, j'ai pu bénéficier de leur carnet d'adresses. Non seulement ils sont activistes sociaux et musiciens, mais ils travaillent aussi avec énormément de monde, et ils ont pu me présenter, que ce soit des gens qui officient dans un style un peu plus moderne, que ce soit reggae, hip-hop ou des choses actuelles, mais aussi énormément de musiciens traditionnels, ce qui m'a permis de travailler et d'enregistrer des instrumentistes et des instruments avec lesquels j'ai pas forcément l'habitude de travailler, des marimbas, des percussions, des cuivres évidemment, mais aussi de la harpe, des flûtes locales, la gaïta, ce qui m'a permis de donner une couleur effectivement un peu unique à cet album, tout en servant le propos que je voulais mettre en avant.
On peut remarquer qu'il y a deux artistes qui reviennent souvent dans l'album, Rimera Angel et Javier Fonseca. Pourquoi avoir mis plusieurs titres avec eux?
Parce qu'effectivement, c'est peut-être les rencontres les plus détonnantes quant à la qualité vocale, la qualité d'écriture. Pour ce qui est de Javier Fonseca, c'est quelqu'un qui a, j'allais dire, quasiment porté le reggae depuis plus de 20 ans sur le territoire colombien, via notamment le groupe phare de la scène reggae là-bas qui s'appelle Alerta Camarada. Donc c'est vrai que avec lui, ça fonctionne immédiatement. On s'est compris très très vite, énormément de qualité d'écriture et de qualité vocale, donc il s'est inséré immédiatement au sein du projet. Et quant à Rimera Angel, c'est un autre monde, elle officie dans des sphères un peu plus pop, mais elle est vraiment bercée par les musiques traditionnelles également. Donc c'est vrai qu'elle elle rentrait immédiatement dans un autre cadre, mais assez facilement dans le projet, et qui plus est, elle a une voix que je qualifierais de classe mondiale. C'est vrai que c'est complètement hallucinant de la voir et de l'entendre chanter, donc immédiatement ça s'est fait assez naturellement.
Et du coup, justement, avez-vous composé votre musique différemment que d'habitude, ou est-ce que non, ça a été une suite logique?
Oui, c'est un processus que je connais déjà un petit peu pour l'avoir utilisé quand j'ai eu la chance de faire un projet en Jamaïque, par exemple, où ça s'est un peu passé de la même manière. C'est-à-dire que je me rends sur place, j'ai des contacts, effectivement, qui me permettent de faire les choses, parce que sinon, se rendre sur ces territoires sans connaître personne, c'est compliqué, ça c'est la première chose. En général, ce qui se passe, c'est que je me déplace avec un ingénieur du son. Moi, de mon côté, j'ai quelques brouillons de morceaux que j'ai déjà commencé à dégrossir chez moi et sur lesquels les gens peuvent intervenir. Donc, ça passe par des rencontres, caler des séances studio, et en général, je demande aux intervenants, dans un premier temps, surtout quand c'est nos instrumentistes, de jouer seuls et de montrer un petit peu l'étendue de leur répertoire, souvent traditionnel d'ailleurs, c'est le cas du harpiste que j'évoquais tout à l'heure par exemple. Là, j'enregistre bien sûr, ce qui me permet de me constituer une banque de samples, de ramener ça dans mes disques durs pour mes travaux studio futurs. Et dans un second temps, je leur demande d'intervenir sur les brouillons que je me suis permis de faire et d'amener avec moi. Donc ça donne vraiment des interactions entre leur travail et le mien. Et quand je rentre chez moi, j'ai le matériau nécessaire pour pouvoir enfin finaliser, mixer et finaliser l'album chez moi tranquillement dans mon studio.
Je trouve que les interludes permettent vraiment de s'immerger dans l'ambiance latine. Est-ce que vous avez posé dans la rue, ou est-ce que vous cherchez ce que vous vouliez enregistrer?
Alors, ce qui s'est passé spécifiquement pour ce travail-là, c'est que parallèlement, la deuxième fois où je me suis rendu à Bogota, j'étais accompagné des gens de mon label Jarring Effect, qui eux-mêmes ont convié un photographe qui s'appelle Romain Etienne pour une exposition photo pour illustrer cette fois-ci en image un peu le propos social et les interventions sociales que j'évoquais tout à l'heure du collectif Gatos Negros. Et parallèlement, il y a Céline Freza, qui est l'ingénieur du son du label donc Jarring Effect, dont il est question depuis tout à l'heure, qui a fait le déplacement aussi et qui s'est permise de faire des prises de son dans la rue. C'est elle qui s'est immergée justement dans toute cette culture urbaine de Bogota. Et j'ai pu, avec son accord et sa complicité, bien sûr mettre en avant un petit peu toutes ces ambiances urbaines sonores via les travaux qu'elle avait pu réaliser pendant 15 jours.
Hola, ¿cómo estás? Mira,
Là, on va parler un peu plus de votre musique en tant que telle et pas forcément d'un album en particulier. Mais est-ce que votre musique est constamment en évolution ou alors est-ce que vous souhaitez construire une identité sonore autour de votre musique ?
Alors les deux, mon capitaine. Dans le sens où, à l'image du style musical dont il est question là, depuis 20 ans, c'est-à-dire le dub, j'entends vraiment le faire muter, le faire vivre. Il faut vraiment que ce soit en perpétuelle évolution. J'estime que c'est important pour tout style musical d'être comme ça, mis en danger, de casser les codes. Tout simplement, ça lui permet de rester vivant, ça lui permet de ne pas rester figé et de devenir une pièce de musée. Donc vraiment, c'est cet esprit-là que, fort humblement, à mon échelle, j'essaye de faire un petit peu avancer les choses quant au style lui-même. Et quant à Brain Damage, c'est un petit peu la même chose. J'arrive pas à faire deux fois le même album. Il y en a déjà eu 14. À chaque fois, ça prend des directions différentes, ça se teinte d'influences diverses. Et c'est vrai, évidemment, qu'il y a le fil conducteur qui est celui du style, qui est le dub, même s'il en revêt multiples facettes à chaque fois. Puis encore une fois, il n'y a pas un album qui ressemble au suivant ou au précédent. Mais c'est vrai qu'aussi, probablement, la patte que je dois y apporter, ma manière de faire les choses et de présenter les travaux doit représenter quand même un fil conducteur aussi. Donc un son, une identité en tant que telle, revendiquée, mais des prises de risque, du cassage de code systématique, ça c'est ce qui fait un petit peu la marque de fabrique de Brain Damage depuis toutes ces années.
D'accord. Du coup, j'avais une question aussi. Est-ce que, malgré le fait que vous avez coopéré avec beaucoup d'artistes jamaïcains pour les albums Talk the Talk et Walk the Walk, est-ce qu'il y a un artiste que vous aimeriez enregistrer
Il y en a plein, il y en a plein. Et puis, c'est assez marrant parce que, comme le prouve cet album colombien qui est venu tout de suite après, soit l'album jamaïcain qui vient d'être évoqué avec un peu des superstars comme Aura Fendi, Willie Williams, Winston McAnuff ou des choses comme ça, des gens qui ont posé les fondations du reggae. Il y a eu ensuite l'album Liberation Time avec encore quelqu'un qui est une renommée internationale qui est Harrison Stafford à la tête du groupe Coundation. C'est sûr que c'est des collaborations qui sont assez prestigieuses, mais je m'attache pas spécialement à avoir des gens connus. C'est pas le propos, c'est vraiment des histoires de rencontres. En est la preuve, cet album colombien sur lequel je mets en avant des artistes qui sont absolument pas spécialement connus en France, en Europe, etc. Donc c'est vraiment pas une question d'aligner des noms pour du prestige. Je dis ça pour pouvoir répondre à la question. Il y a effectivement plein de gens avec qui je pourrais être amené à travailler, avec qui je pourrais avoir envie de travailler, mais qui sont des gens dont on n'a pas forcément entendu parler. Ou alors, effectivement, des gens qui sont des légendes, mais qui sont peut-être inaccessibles. Je dis ça, s'il faut donner un nom, oui, dans mes rêves les plus fous, faire quelque chose avec Elkaji, ce serait vraiment fantastique.
Une question un peu plus généraliste, comment se porte le dub en France, selon vous ?
Le dub en France se porte plutôt pas mal. La scène dub française est connue mondialement. Elle n'est pas très âgée, c'est-à-dire que c'est nous qui nous sommes permis de la créer à la fin des années 90 avec d'autres entités très proches de la mienne. Certains sont encore là, comme Zenzile, Aito, il y a eu Improvisators Dub, Cali Live Dub. Ça a constitué le noyau dur de la scène dite dub française de l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a une voire deux générations qui sont arrivées depuis pour donner un petit peu du renouveau à ça. Il y a le courant sound system anglais qui est venu envahir un petit peu la France, donc ça on le retrouve aux quatre coins de l'Hexagone. Donc il se passe vraiment plein de choses. Les entre guillemets les jeunes prennent le relais sans problème. Ils ont une façon de décliner le style qui est bien à eux. Il y a des choses qui sont plus frontales, plus synthétiques. Il y a des choses qui reviennent vers de l'analogique. Il y a du sound system, il y a du live. Donc ça se porte vraiment très bien parce que tout ça cohabite plutôt pas mal et le public réagit très bien à toutes ces nouveautés.
Du coup, j'aimerais savoir ce que par la suite, est-ce que vous aimeriez faire d'autres albums à thème ou alors est-ce que vous partez sur un autre album un peu plus comme Talk the Walk ?
A priori, tous les albums, je m'attache autant au fond qu'à la forme. C'est-à-dire qu'il y a toujours des thèmes. Même sur Walk the Walk, Talk the Talk, il y en avait l'idée d'aller voir ces Jamaïcains qui ont fait le style, qui ont inventé le reggae et qui sont parmi les derniers témoins de la genèse de ce style. Le truc, c'est que je leur ai demandé quand même, je me suis permis de leur demander s'il fallait donner un thème, de parler de leurs jeunes années en Jamaïque, mais de leurs très jeunes années, voire petite enfance, des choses qui sont assez rarement évoquées dans le reggae au niveau des paroles, et il y en a certains qui m'ont écrit des textes assez saisissants par rapport à ça. J'avais envie de faire une espèce de carte postale de cette Jamaïque post-coloniale, voire même avant, qui est pour moi assez méconnue, pourtant qui est une esthétique assez forte et assez puissante, et de faire quelque chose d'un petit peu original au niveau des paroles qui peuvent être écrites dans le reggae depuis très longtemps. Beaucoup de choses ont été dites, donc l'idée c'était de leur faire dire un petit peu autre chose. Pour répondre à la question, tous les albums de Brain Damage sont de toute façon conceptuels et parlent de quelque chose de précis. Et je ne compte pas m'arrêter, ça fait partie effectivement de mon ADN. C'est ce qui m'intéresse de la musique, mais un petit peu plus pour ceux qui veulent se donner la peine de lire entre les lignes.
D'accord. Et du coup, justement, vous parlez de la suite, comment vous l'envisagez ?
Bah, la suite, j'allais dire rendez-vous dans 20 ans. Ce marrant, c'est que voilà, on fête les 20 ans de ce projet-là et moi, j'ai la même fraîcheur qu'au premier jour quant aux idées que je peux décliner, quant aux envies que je peux avoir. Ça passe pas un jour sans que j'ai une envie de projet que je voudrais concrétiser dans la journée, ce qui est évidemment pas possible. Je m'en étonne moi-même. Après 20 ans, je pourrais me sentir usé, avoir envie de refaire toujours la même chose ou plus spécialement d'idées. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas le cas. Donc, tant que j'aurai l'énergie de continuer, je crois que cette histoire n'est pas terminée.
Du coup, est-ce que vous avez quelques dates à nous annoncer ?
Des dates, il y en a plein. Il y en a environ une trentaine qui est annoncée, donc je ne vais pas tous les dire. Il y a celles qui ne le seront pas encore. La tournée des 20 ans va être une tournée relativement fleuve. Je vais essayer de faire en sorte de croiser le maximum de gens. J'invite tout le monde à évidemment aller sur Internet, les réseaux sociaux, bien sûr. C'est toujours efficace, mais on se donne du mal pour faire un site Internet, brain-damage.fr, qui est assez joli, avec plein d'archives, plein de choses, plein d'images, plein d'informations, et bien entendu, les dates de tournée.
D'accord, donc on invite les auditeurs et les auditrices à aller checker le site Internet, donc braindamage.fr, c'est ça ?
Brain-damage.fr.
D'accord, brain-damage.fr. Donc, du coup, on va se quitter avec un petit son. Quelle musique voulez-vous qu'on joue ?
Ce serait sympa de commencer par le premier titre de la compilation qui sortira donc le 29 mars, Combat Dub 4. Le premier titre, c'est donc évidemment un morceau de Brain Damage, remixé par les Italiens de Moi Ambessa. Et on va reconnaître aisément la voix de l'homme que l'on appelle Horace Andy, que tout le monde connaît. Le morceau s'appelle Youth Dub, Moi Ambessa Remix.
Ça marche. Alors, on se quitte avec ce titre. Merci, Brain Damage, pour cette interview.
Merci. À très bientôt.
À très bientôt.
holy word. So my brethren, stop using it in vain. Oh, you'll get spanked.